On s'en va rejoindre au bout du fil quelqu'un qui connaît bien le milieu des communications, mais qui lance son premier roman. Daniel Brouillette, bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, très bien.
Est-ce que c'était un souhait de longue date d'écrire un roman?
On dirait que, je sais pas, je pense que oui. En fait, je voulais écrire plus longtemps. Je savais pas ce que c'était un roman, mais je voulais écrire plus longtemps que deux pages. Donc, je me suis dit, ben un jour, je vais probablement écrire quelque chose. Est-ce que c'est un conte? Est-ce que c'est un roman? Est-ce que, je sais pas, mais tu sais, c'est sûr que pour les gens qui me connaissent un peu, j'avais commencé dans les journaux, moi, donc j'avais écrit un peu dans les, avec faire des éditoriaux. Donc oui, je voulais écrire. Un jour, j'ai toujours voulu écrire.
Préface signée à tes enfants, en fait, c'est dédicacé à tes enfants, parce que c'est un peu un bout de ta vie, ce livre-là, c'est beaucoup un bout de ta vie, en fait.
Bien, en fait, oui, je me suis inspiré d'un bout de ma vie romancée. Bien sûr que je l'ai dédicacé à mes enfants parce que j'ai raconté, je me suis rappelé, je me suis reposé mes yeux de 9 ans, puis j'ai raconté l'histoire d'une femme qui a 45 ans, qui a 7 enfants, puis qui meurt du cancer. Donc je me suis faufilé dans sa tête et j'ai raconté une partie de ce que je voyais là-dedans avec beaucoup de romance, là, bien entendu.
Est-ce que c'est une histoire qui t'habitait depuis tes 9 ans? Parce que c'est ta mère qui est décédée alors que tu avais 9 ans.
Oui, oui, mais en même temps, c'est pas... je trouvais que l'histoire était belle. En fait, moi, pour mon premier roman, je voulais bien vivre. Je voulais que cette histoire-là m'habite. Donc, pour être certain que je ne m'égare pas dans quelque chose que je connais moins. Donc, comme c'était ma première fois que j'expérimentais le roman, bien, je me suis dit, cette histoire-là, il y a quelque chose là-dedans, il y a des beaux moments. Alors, je me suis inspiré de ce que les gens me racontaient, de ce que j'avais vu. Donc, je prenais des morceaux un peu partout de ma vie, parce que bien sûr qu'il y a des chapitres, c'est des gens qui me racontent, qui m'ont donné une phrase en me parlant d'elle, et je raconte un peu comment elle a vécu ça, comment j'imaginais qu'elle a pu vivre ça dans sa tête. T'sais.
Ça a pris 4 ans, l'écriture de ce roman-là. J'imagine que ça a été dur émotivement, écrire ça.
Oui, c'est sûr qu'il y a eu des chapitres plus difficiles vers la fin. On dirait que je traînais. Là, tu sais, je m'en allais vers la fin ou, par exemple, vers sa mort. Puis là, c'est sûr que j'avais des choses qui me trottaient dans la tête. Parce qu'en même temps, tu sais, il y a un chapitre sur les bobines où mon frère, qui s'appelle Gabriel, dans ce roman-là, avait mis des microphones sous le lit de ma mère. À ce moment-là, lui, il était plus vieux que moi. Il avait quand même 22 ans, donc il était plus techno. Donc, moi, j'étais jeune. Puis un jour, il y a 35 ans après, on écoutait ce que Rita disait au médecin, même si on n'avait pas le droit, s'il n'avait pas le droit de faire ça. Mais sur sa délinquance, à l'époque, on remettait... C'est, bon, il était jeune. Alors, un peu plus tard, je me rappelle d'avoir écouté ça, puis ça m'avait marqué un peu de l'entendre souffrir aussi, parce que... En 68, il faut comprendre que les doses de morphine étaient beaucoup plus distancées qu'ils sont aujourd'hui. Tu sais.
Et c'est aussi le cancer à une époque où on n'en parle pas tant. C'est le cancer dans un petit village aussi.
C'est l'époque où il ne fallait pas trop prononcer le mot cancer. On ne savait pas trop ce qu'elle avait. On se doutait bien que ça pouvait être un cancer de l'utérus, mais dans le temps, tu sais, ils ne savaient pas trop où ils s'en allaient avec ça. Puis à un moment donné... tout s'est jeté dans son corps, tu sais, ses os lui faisaient mal. Qu'est-ce que le cancer de l'utérus venait faire, par exemple, dans une jambe encastrée en deux ferrures? Alors, toute cette dimension-là est dans le roman, tu sais. Puis, tu sais, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette femme-là, qui est ma mère, avait quand même 16 ans de différence avec mon père. Donc, elle avait 45 ans. Et quand elle est décédée, et lui en avait 62. Donc, il y a quand même une différence d'âge. Donc, il y a ça aussi qui est dans ce roman-là, cette histoire d'amour entre les deux, où lui en est presque mort, presque, quand elle est morte.
Évidemment, pour ça, tu as récolté des témoignages de gens qui ont bien connu ta mère, parce que tu avais 9 ans. C'était comment cette recherche-là sur sa propre mère, quelque part?
Bien, c'est pour ça que je te dis, dans le fond, c'est que, tu sais, les gens du village, tu sais, quand tu grandis, ils ont connu ta mère. Ils disent, j'ai connu ta mère, je me rappelle d'elle parce qu'elle était vraiment belle, c'est une magnifique femme. Et on se rappelle d'elle, par exemple, quand elle allait chanter au village, on se rappelait d'elle quand elle allait danser, on se rappelait d'elle quand elle allait acheter des choses, on se rappelait d'elle, par exemple, quand elle allait choisir son tissu pour coudre. Et à un moment donné, au fil du temps, ben, 30, 40 ans après, tu rencontres des... Bon, moi, j'avais 40 ans, des fois, j'ai eu 40, 45. Là, tu rencontres des gens qui disent, ah, ce moment-là, ta mère, elle m'avait raconté ça, elle m'avait dit ça, elle m'avait dit ça. Et là, tu prends ces bouts-là, et là, tu te dis, ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle, comment est-ce qu'elle a pu vivre ça? Et c'est tout en... quand j'ai ramassé tout ça, il y avait des références historiques aussi. Tu sais, j'ai découvert à travers ça que Oscar et elle s'étaient mariés en 44, et la veille de leur mariage, c'était la première fois que les femmes avaient le droit de vote au Québec. Donc, mon roman est parsemé d'anecdotes historiques comme ça, parce que je me disais, c'est impossible qu'à leur mariage, ils n'aient pas parlé de ça. Ouais. Par exemple aussi, plein de choses, c'est que quand elle est décédée, dans la nuit où elle est décédée, bien, Robert Kennedy est décédé. Donc, j'allais voir aussi comment le monde vivait à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est, ça a été quoi le choc dans le monde quand nous, sur le haut de la côte, on vivait le choc?
Tu es copropriétaire d'une résidence pour aînés, est-ce que je
oui,
peux dire ça?
Oui, c'est ça, oui, oui. Oui,
est-ce,
oui.
Est-ce que donc, là-bas, il y a des gens qui ont connu ta mère aussi?
Oui, parce qu'en fait, il y a un personnage dans mon roman qui s'appelle Irène, qui est sa sœur. Et sa sœur, c'est elle qui a été son aidante naturelle en 68, et elle réside ici maintenant. Elle a 88 ans. Et elle restait donc, qui était ma tante, et c'est elle, après ça, qu'on en parle beaucoup dans leur temps, là, pour les gens qui vont lire, là, jusqu'à son service funèbre. Là. Irène est là, puis on voit ce que Rita lui a confié, on voit aussi ce qu'elle a m'a raconté au fil du temps. C'est sûr qu'aujourd'hui, Irène a une mémoire un peu plus... c'est sûr, elle a des mémoire moins alerte qu'avant parce qu'elle a des problèmes cognitifs, mais quand même, avant que tout ça arrive, elle me racontait des bribes. Puis c'est suite à ça que j'ai pu fignoler des histoires plus poétiques aussi. C'est une histoire pour comprendre que, tu sais, oui, il y a de l'extrêmement vrai, mais il y a de l'extrêmement faux aussi pour que la romance se poursuive dans cette histoire-là. T'sais.
Tu as toujours écrit, tu as un blog maintenant. Est-ce que de recevoir le livre, la boîte de livres, de l'avoir dans tes mains, ça a été un moment spécial?
Ah oui, vraiment. Sincèrement, c'est drôle que tu m'en parles. Parce que moi, là, quand j'ai reçu la boîte, là, je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Là, je me dis, tu me filmes pour que quand je vais ouvrir cette boîte-là, que je me mette le nez dans le livre, que je chante l'angle, qu'est-ce que ça sent un livre. Ça, c'est sûr que pour un gars de 61 ans comme moi, ouvrir un livre, ouvrir une boîte de son premier roman, tu sais, je vais m'en rappeler toute ma vie, parce que tu sais, quand j'ai laissé ça sur mon perron, puis je me suis dit, bon, là, je vais ouvrir ça. Puis quand tu vois ton livre, Luc, là, c'est quelque chose. Là, tu sais, tu vois une boîte de livres, puis là, tu vois ton nom là-dessus. C'est même hier, je te dis ça vite, mais hier, je suis allé voir mon roman chez Renaud Bré, dont la tranche frotte celle de Margaret Atwood, qui est juste aux côtés de Louise Desjardins. Tu sais, fait que, tu sais, je me disais, je réalise aujourd'hui un rêve aussi d'avoir écrit un livre. Tu sais.
Est-ce que les gens de la maison d'édition t'ont aidé à travers ce processus-là? Parce qu'écrire un roman, c'est pas simple non plus.
Ah, beaucoup. Mais tu sais, en premier, moi, je me suis fait aider par Christiane Asselin. Christiane Asselin, c'est celle qui corrige Marie Laberge, une personne que je connaissais pas, mais c'est elle qui a d'abord reçu mon premier manuscrit, parce qu'avant de l'envoyer à Librex, à Nadine Lauzon, mon éditrice, je voulais voir si je tenais quelque chose. T'sais. Alors, je me suis dit, s'il y en a une qui va me le dire, ça va être Christiane Asselin qui corrige Marie Laberge. Et quand elle a reçu mon premier manuscrit, elle m'a appelé tout de suite, elle a dit, Daniel, wow! Là, j'ai dit, ah oui, elle aime ça. Fait que je me suis dit, ah ben, si Christiane Asselin aime ça, elle en a vu d'autres. Donc là, j'ai commencé à travailler avec elle, parce que comme je n'avais jamais écrit de roman de ma vie, je voulais surtout voir est-ce qu'il y a des choses. Ben alors, on a travaillé ensemble, on l'a fignolé, tu sais, j'ai ciselé mes phrases, puis c'est tant que c'était pas à mon goût, je recommençais, parce que moi, je voulais que dans mon roman, que dans chaque page de mon roman, qu'on puisse sentir les cinq sens du corps humain. Je voulais que ça goûte, que ça sente. Je voulais qu'on voit, je voulais qu'on entende quelque chose, je voulais que ça touche, je voulais que la peau tout. Moi, je voulais que chaque mot, ou en tout cas, ou chaque page, je voulais que vous, que le lecteur ressente quelque chose, qu'il goûte, qu'il sente. Si, par exemple, dans une page, à faire rôtir de la saucisse, mais je voulais que l'odeur de la saucisse sorte de ma page, presque. T'sais. Alors, avec Christiane, on a travaillé beaucoup là-dessus. Ensuite de ça, j'ai déposé avec Librex, Nadine Lauzon. Puis là, ben, l'éditrice, en plus, elle a retravaillé. On a travaillé sur les titres, sur les chapitres, sur comment est-ce qu'on va déplacer un chapitre même. T'sais. Alors, c'est vraiment une belle expérience à apprendre à écrire aussi, t'sais, puis écrire ça.
Tu as fait un lancement magnifique sur les réseaux sociaux où tu lis les extraits du livre, où il y a de la musique aussi avec Roxane Fillon et Yann Veillette qui sont là pour ce lancement-là. Évidemment, il pouvait pas avoir de lancement physique. Est-ce que c'était ça le plan au départ? Est-ce qu'il devait y avoir une soirée spéciale de lancement de livre?
Ah ben oui, moi j'avais tout prévu ça, c'était prévu pour le 19 mars, je faisais ça en pleine église paroissiale, il y avait 500 invités, j'avais des artistes invités, parce que dans le livre, comme j'expliquais, il y a beaucoup de musique, on est né là-dedans, nous, donc les chansons sont pas là pour rien, là. Ils font partie de l'histoire, oui. Soit parce qu'elle écoutait la radio, soit parce qu'il s'est passé telle chose, elle a acheté un disque, elle a copié des paroles, donc toutes ces chansons-là font partie de mon histoire. Alors oui, j'avais prévu un lancement le 19 mars qui était, j'étais au Salon du livre de Québec le 16 et 17 mars, ça se posait être là, le livre était lancé au Salon du livre, mais là avec la pandémie et tout, ben tout a basculé, donc c'est sûr qu'on a dû inventer et recréer un nouveau lancement. Écoute, j'ai fallu repenser tout ça, tu sais, comment tu lances un roman quand tu n'as pas de 5 à 7, pas de salon de livre? Ouais. Alors, c'est sûr, on l'a fait en direct sur Facebook et je suis allé en studio avec des amis, puis j'ai enregistré des extraits du livre, puis Roxane était là, qui était choriste en direct de l'univers, ouais. Puis on a fait les extraits qui a fait ce vidéo-là, puis qui est vraiment bien fait, qui est beau, tu sais.
Étais-tu touché de cet événement-là? Parce qu'évidemment, c'est magnifique ce que ça donne comme résultat. On t'entend lire des extraits où tu nommes, entre autres, les chansons que Roxane chante tout de suite après.
Oui, oui. En fait, les extraits que je lis, c'est des extraits du livre. Donc, ce que je dis dans mes extraits en présentant cette vidéo-là, c'est écrit dans le livre. Donc, une fois que j'ai sur... C'est, en fait, ce que je disais, c'est un lancement de livre, Luc, enregistrer un lancement de livre, je voulais pas mettre des extraits pour des extraits.
Non, non.
Ce que je voulais, c'est que je voulais aussi que ça sonne, tu sais. Et dans mon livre, ça chante. Donc, je me suis dit, je vais aller chercher les extraits qui sont les plus percutants pour faire une vidéo qui a de la musique, puis que tu regardes, tu sais, un gars qui lit des extraits, c'est bien le fun, là. Mais dans mon livre, il y avait ça. Donc, je me suis dit, j'ai fait un mix des deux, puis ça donne ça, parce que les chansons, que ce soit Le chemin des amours de Tino Rossi en 1938, je pense, qui a chanté ça, A Smile de Charlie Chaplin, ben tu sais, ces chansons-là, quand tu lis mon livre, le roman, tu vas les lire. Ils font partie, c'est une raison d'être, oui. de ta lecture, oui. Tu sais.
T'as travaillé beaucoup en radio à travers les dernières années. D'être de l'autre côté maintenant, d'être l'invité, c'est comment?
Comment qu'on se sent comme invité? On espère ne pas être plate. Sincèrement, là, tu me poses cette question-là.
Ce n'est pas le cas.
Je te parle, puis je me dis, tu sais, c'est ça, moi, je dirigeais, donc...
Oui.
Je dirigeais, je disais, bon, OK, on va faire une entrevue, est-ce que tu es préparé? C'est sûr que quand on est de l'autre côté, on espère juste que la personne ne te trouve pas plate, puis que l'auditeur te trouve intéressant, est-ce que ce que je raconte... Alors oui, c'est différent, puis là, je me rends compte, tu sais, du métier que vous faites, qui n'est pas toujours facile, tu sais, parce que tu as des gens au bout, tu te dis, bon, ben, si je pose cette question-là, il va répondre quoi, comment ça va aller, est-ce qu'il va me partir sa cassette, tout ça, puis on sait c'est quoi. Donc, tu sais, le métier que vous faites, je l'ai coaché, mais tu sais, en même temps... Tu me poses cette question-là, puis je réfléchis d'ailleurs beaucoup là-dessus. C'est quoi communiquer, comment bien communiquer, comment faire pour que les gens nous écoutent plus longtemps. Est-ce que je réussis à le faire présentement? C'est tout ça qui me questionne. Quand tu me poses cette question-là, ça me questionne. T'sais.
Est-ce que ça te manque, le milieu des communications? Parce que tu as fait ça une grande partie de ta vie avant de quitter pour aller à la Villa Saint-Narcisse, où tu es copropriétaire.
Est-ce que ça me manque? Je te dirais que ça va toujours être dans ma peau. Je pense que ça partira jamais. Est-ce que ça me manque? Oui. Est-ce que j'en ai besoin pour vivre à tout prix? Je sais, je suis capable de vivre quand même, je suis capable d'être heureux, mais oui, j'ai, des fois je sens quand même comme un trou, tu sais, je me dis, ah, j'aimerais ça, tu sais, quand je faisais mon lancement de livre, là, puis je me disais, OK, là, je me donnais des idées pour essayer de réinventer, j'ai haï ça le mot, là, parce qu'on le dit, mais recréer, comment on pourrait recréer un lancement de livre, comment on peut recréer un moment, une entrevue, comment si j'étais là, comment je pourrais faire, par exemple, pour qu'un livre, que toi, par exemple, tu me fais une entrevue de livre, comment je pourrais faire pour qu'on mette en avant la lecture, parce que je pense que je ne l'ai pas assez fait quand j'étais là. Comment je pourrais intéresser l'auditeur à des chroniques de livres, tiens, c'est ça. Je me pose, oui, j'irai là.
Évidemment, la pandémie a frappé le lancement de ton livre, mais comme tu es copropriétaire d'une résidence pour aînés, la pandémie, tu la vois vraiment?
Oui, effectivement, on la voit vraiment. On est dedans parce que nous, on vit avec 23 personnes qui sont âgées entre 73 et 100 ans. Donc, c'est sûr qu'on l'a vécu. On le vit de l'intérieur, vraiment. T'sais, on a vécu le confinement, on le vit encore. Et nous, comme on vit avec eux, ben, faut être plus prudent parce que on dort ici dans la résidence avec eux. Donc, à chaque fois qu'il faut qu'on sorte, parce qu'il faut des fois qu'on sorte, ben, il faut être, je pense, 100 fois plus prudent pour pas ramener ça ici. Puis là, maintenant, ben, bien sûr, les personnes âgées ont le droit de sortir un peu. Donc, c'est sûr que ça nous amène à gérer des situations, à gérer des gens aussi qui vont s'ennuyer plus. Mais je te dirais que dans l'ensemble, nous, on peut dire que ça a bien été parce que notre résidence est sur le même plancher, ce qui fait que les enfants pouvaient venir depuis avril, ils pouvaient venir voir les parents là sur les perrons. Donc, on n'est pas de deuxième étage, de troisième étage.
On l'a dit, une dédicace pour tes enfants, comment ils ont réagi?
Ah, ben ma fille a lu ça en premier. D'abord, mes enfants n'ont pas connu ben non, mais cette histoire-là. Donc, ma fille a dévoré le livre. C'est sûr qu'elle a terminé les yeux dans l'eau. Là. Je le savais bien. Tu sais, Raphaël est en train de le lire. Il lit, lui, par morceaux. Il dit, des fois, il dit, je trouve ça dur. Puis, en même temps, ben là, c'est vrai qu'il... Tu sais, Ariane, elle me dit, ben là, je comprends, papa, pourquoi t'es végétarien. Hein? On jouait tout ça. Là. C'est, c'est quand je parle de la boucherie, puis tout ça, là, elle voit bien pourquoi j'ai été marqué par l'abattage des poules, tu sais.
Et de savoir qu'il y a quelque chose qui reste, est-ce que ça nous frappe l'esprit? Parce qu'un livre, c'est ça, c'est quelque chose qui reste dans le temps pour la suite, pour les enfants, entre autres, on en parle, mais il y a ça
ben
dans
un
livre.
Oui, c'est drôle parce que tu me dis ça, parce que hier, justement, je faisais cette réflexion-là à Ariane, tu sais, je dis, ce qui me fait plaisir là-dedans, c'est que mon livre est déposé en bibliothèque, tu sais, ça va rester dans le temps. Puis je disais à mes neveux et nièces, ben peut-être que vos enfants ou les enfants de vos petits-enfants, oui, un jour vont prendre ce livre-là, on ne sera plus là, personne, là, mais peut-être que ça me touche de voir qu'un livre, effectivement, ça reste dans le temps. C'est ça. Le papier, ce que je vais avoir écrit en noir sur blanc, va rester. Donc, pour des gens qui vont voir leur arrière, leur ancêtre, leur aïeux, il va s'être passé cette histoire-là sur le haut d'une côte un jour, en se posant est-ce que ça est arrivé, tu sais. Mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est parce que j'ai gardé les vrais noms. J'ai travaillé avec l'éditrice là-dessus. Mais mes parents, ils s'appelaient vraiment Oscar et Rita. J'ai changé le nom de mon frère et de mes cinq sœurs, mais pour mes parents, c'est ça. Ses frères, son père, sa mère, j'ai gardé tous les mêmes noms. Donc, si tu recules dans mon arbre généalogique, puis si les petits-enfants un jour reculent là-dedans ou vont voir les feuilles là, ben, de l'arbre, ben, ils vont se rendre compte que c'est les vrais noms. T'sais.
Et généralement, quand on écrit un premier livre, ça donne le goût d'en écrire un autre. Est-ce que c'est quelque chose qui t'habite?
Je te dirais que, pour le moment, probablement que oui. Je te dirais oui. Je vais te répondre oui. Est-ce que j'ai le goût d'en écrire un autre? Oui. Est-ce que je sais où je m'en... Tu sais, j'ai parti plein de bébelles, plein d'affaires. dans ma tête, puis j'en ai écrit des bouts. Mais pour le moment, je ne sais pas sur quel chemin je prendrais. Mais probablement que je vais prendre un chemin qui sera peut-être pas, qui ressemblera peut-être pas à ça non plus, puis va peut-être être bien différent que ça. Ça se peut très bien. Des fois, il me passe des bulles, je suis comme, OK, je pourrais partir là-dessus. Parce que moi, là, je n'ai pas écrit, Luc, pour juste divertir. Pas bien qu'on s'entende, là. Moi, j'ai écrit pour divertir, mais pour aussi qu'il y ait une réflexion. Par exemple, on termine sur l'aide médicale à mourir là-dedans, parce que ma mère, elle l'a presque demandé de mourir. Donc moi, j'avais une réflexion là-dedans. Je voulais qu'il y ait une réflexion aussi sur qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on vit, puis est-ce que la souffrance est nécessaire. Puis des fois, je fais des réflexions là-dessus. Des fois, je fais des réflexions sur le bonheur. Des fois, je fais des réflexions même sur le narcissisme. Et je vois là. Puis je vois aussi sur le bégaiement. Tu sais, je suis allé sur mon bégaiement à moi. Tu sais, parce que je sais qu'il y a des gens dans la vie qui n'osent pas aller là où il faudrait qu'ils aillent, par exemple, puis qui sont bloqués par ça. Alors moi, dans ma vie, j'ai dû dépasser ça. Alors, c'est une façon aussi de dire, ben, tu peux réussir même si tu n'es pas un humain parfait, si tu n'as pas la langue parfaite, si tu n'as pas les yeux parfaits, si tu n'as pas les oreilles parfaites.
Mais c'était important de toucher à ce sujet-là, je parle du bégaiement, parce qu'évidemment, rare qu'on en parle quand même.
Bien, j'y ai touché dans le livre, j'en parle, le petit garçon en parle, puis probablement que je vais toucher les gens là-dedans, effectivement, je suis allé là. Je suis allé parce que je tenais à ce qu'on identifie là-dedans l'enfant, puis les gens sachent que, tu sais, malgré, tu me dis, ben, oui, j'ai fait un métier de communication, et probablement que si j'avais pas bégayé, j'aurais probablement pas été derrière le micro. J'aurais peut-être été dans le micro.
Ouais.
Mais c'est probablement ça qui m'a empêché, puis je sais très bien que c'est ça, tu sais. Tu me dis, si j'avais à écrire, là, j'irais probablement, tu sais, ça se peut que j'écrive carrément un jour sur le bég, tu sais. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que les gens face à toi sont un peu mal à l'aise, tu comprends? Fait que, mais c'est moi, ça me fascine pareil. Tu sais.
Et là, évidemment, il devait y avoir Salon du livre. Là, il n'y en a pas. Est-ce que tu as hâte d'aller à la rencontre du lecteur?
Sincèrement, oui. C'est ce qui va me manquer le plus. C'est ce qui me manque le plus. C'est là, ils viennent chez nous. Là, les gens viennent faire signer le livre ici. Je me salue une table. Je suis dehors. J'en signe dans la paroisse ici, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté le livre. Là. Puis là, ça me manque. Honnêtement, oui. Moi, j'étais un gars de public. J'aime ça. J'aurais aimé ça, tu sais, aller à l'encontre. Tu sais, j'étais un nouvel auteur. Je suis pas connu. Les gens savent pas qui je suis. Mais en même temps, bon, ça arrive. Tu sais, il y a des affaires bien pires que moi, là, qui peut pas signer un livre. Là. Fait que je me calme. Je dis, garde, étouffe-toi avec ça un peu. Là, c'est pas grave. Tu sais, garde, t'as lancé ton livre. Puis, mais oui, ça me manque de pas avoir vu le monde. Tu sais, j'aurais vu plein de monde qui serait venu me voir, là, c'est sûr. Tu sais.
Un livre, évidemment, c'est un travail en solitaire au départ, l'écriture de ce projet-là, mais ensuite, quand les lecteurs et lectrices l'achètent, c'est eux qui consacrent du temps dans leur vie, alors qu'on n'en a pas, quoique maintenant, peut-être un peu plus, mais on n'en a pas de temps, de savoir qu'il y a des gens qui vont arrêter un bout de leur vie pour se consacrer à ce livre-là, ça te fait quoi? C'est un privilège?
Bonne question, vraiment. Mais ça va me faire, tu sais, moi, je me sens touché par ça, tu sais. Autant que je voyais mon livre hier sur une tablette, puis il y a quelqu'un, à un moment donné, qui l'a pris dans ses mains, j'ai eu comme un frisson. Fait que je fais comme, quelqu'un qui va poser ses yeux sur mes lignes, je me dis, honnêtement, là, je me sens honoré, tu sais. Je me sens, j'ai en toute humilité que je vais te le dire, mais sincèrement, c'est vrai que c'est quelque chose. Mais tu te dis, par contre, après ça, tu dis, oui, mais tu sais, j'ai travaillé, là, tu sais, moi, c'est pas vrai là, que je savais écrire tant que ça quand j'avais 16 ans, 17 ans, tu sais, j'étais pas un premier de classe en français, moi, là. Moi, j'ai appris à écrire tard, donc, je sais pas si tu sais, mais pour moi, là, c'est un accomplissement, ça, là, écrire, là, tu sais, c'est quelque chose, là, tu sais, je m'attendais pas à ça, moi, un jour. J'ai des amis, j'ai une grande amie moi, qui m'a enseigné le français puis qui a été mon professeur, qui est décédé aujourd'hui. Puis je me disais, si elle savait ça, si elle me voit, là, en tout cas, elle doit être bien fière de ça. Alors, quand tu me demandes qu'est-ce que ça me fait de savoir que les yeux, que du monde pose leurs yeux sur mes mots, là, c'est touchant.
Tu as rajouté un O dans ton nom parce qu'il y a un autre auteur qui s'appelle Daniel Brouillette. Alors, le O, c'est pour Oscar, qui est ton
Oui,
père.
oui, 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 oui.
Tu as beaucoup de chapeaux en même temps, ton papa, à travers tout ça.
Oui, ben oui, parce que tu sais, c'est quand même un homme qui a vécu jusqu'à 76 ans, qui était très ouvert, qui est un homme moderne, contemporain, triste d'avoir perdu sa femme. Mais aujourd'hui, tu sais, quand tu vois tout ça, tu sais, quand tu vieillis, tu te dis, mon Dieu, tu sais, il a perdu ce qu'il aimait le plus au monde. Fait que c'est sûr que les 15 années après, oui, effectivement, ça n'a pas été facile pour lui. Alors, je me suis dit, tiens, il mérite bien un Oscar.
Mais Daniel, j'invite les gens à se procurer le dernier Je t'aime aux éditions Libre Expression. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
Merci beaucoup, Luc.
Merci.
Bye-bye.
Bye.